Au micro, Idrissa Sedulia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Paris a décidé de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, qui refusent de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France, a annoncé ce mardi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Une décision drastique, inédite mais rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et nous ne pouvons pas garder en France, a-t-il justifié sur Europe 1. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi le chef d'Africom, le commandement militaire américain en Afrique, qui a salué le rôle de l'Algérie dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région. Monsieur Tebboune et le général Stephen Townsend ont examiné les développements dans la région, en particulier la sécurité au Sahel et les moyens de renforcer les capacités des pays de la région, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, selon la présidence algérienne. Le nouveau commandant de l'opération Barkhane, le général Laurent Michon, a rejeté ce lundi à Nouakchott les reproches du premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, récusant en particulier l'expression d'abandon pour décrire la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel. Monsieur Maïga avait affirmé samedi à la tribune des Nations Unies que l'annonce par le président Emmanuel Macron en juin de la réorganisation de la présence militaire française avec la fin programmée de Barkhane représentait pour le Mali une espèce d'abandon en plein vol, dénonçant un manque de concertation et une décision unilatérale. Le général Michon a assuré qu'au contraire, la décision d'évacuer les forces françaises de leurs trois positions les plus septentrionales au Mali avait été mûrement réfléchie et discutée. Au Nigeria, une vingtaine de pêcheurs au moins ont été tués dans un raid aérien de l'armée nigériane visant dans le nord-est un camp de combattants djihadistes d'ISWAP, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, on dit hier des habitants et des sources militaires. Le président américain Joe Biden, 78 ans, a reçu sa troisième dose de vaccin contre le COVID-19 ce lundi, a annoncé la Maison-Blanche. La semaine dernière, une dose de rappel du vaccin Pfizer a été approuvée pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour celles à risque, y compris du fait d'un emploi les exposant particulièrement au virus. Pfizer a annoncé avoir commencé un essai clinique de grande ampleur pour sa pilule anti-Covid afin de tester sa capacité à réduire à titre préventif les risques d'infection chez l'entourage d'une personne ayant contracté la maladie. Plusieurs compagnies dont Merck et Roche travaillent sur des médicaments de ce type appelés antiviraux. Pfizer a aussi annoncé lundi avoir procédé aux premières injections pour évaluer sur des humains un vaccin contre la grippe utilisant la technologie de l'ARN messager déjà employée dans son vaccin contre le COVID-19. Le nouveau premier ministre israélien, Naftali Bennett, a accusé lundi depuis la tribune de l'ONU le programme nucléaire iranien d'avoir franchi toutes les lignes rouges, tandis qu'Européens et Américains ont exhorté Téhéran à laisser les inspecteurs de l'AIEA accéder à un site près de la capitale. Mais le nouveau commandant de maintenant... Le premier ministre israélien, je viens de vous donner cette information, ajoutons que la Corée du Nord a tiré mardi un projectile en mer au moment où son ambassadeur à l'ONU revendiquait le droit légitime de son pays à tester des armes face à ce qu'il a appelé la politique hostile des États-Unis et de Séoul. La suite de nos informations, arrestation au Mali de 4 officiers et d'une fonctionnaire. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier lundi dans une affaire d'achat de matériel militaire au début de la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, renversée par les militaires. Le point avec Abdourahmane Dia.
Il s'agit là des dernières arrestations dans le cadre de cette affaire. Le pôle économique et financier de Bamako a ordonné le placement sous mandat de dépôt de colonels, un commandant, un lieutenant et une contrôleuse financière du ministère de la Défense. Ils sont soupçonnés d'atteinte aux biens publics, faux et usage de faux dans le cadre d'un marché d'acquisition d'équipements militaires. L'ex-premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga, ministre de la Défense au moment des faits, ainsi que l'ex-ministre de l'économie et des finances Boiré Félissi Soko ont déjà été placés sous mandat de dépôt le 26 août. Tous deux sont poursuivis pour atteinte aux biens publics et soupçonnés d'escroquerie, faux et favoritisme. Le 23 septembre, l'ancien directeur de cabinet de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, Mamadou Camara, avait également été placé en détention. L'achat d'un avion présidentiel pour près de 40 millions de dollars, ainsi que de matériel militaire à une société malienne, tous deux sans appel d'offres, avaient valu en 2014 au Mali des sanctions des institutions financières, notamment le gel pendant 6 mois des décaissements du Fonds monétaire international.
Le Soudan du Sud rejette un rapport de l'ONU sur la corruption. L'élite politique du pays est accusée d'avoir détourné des dizaines de millions de dollars de fonds publics. Le gouvernement de Djouba se dit victime d'une campagne internationale, Jacques Aristide.
L'enquête a été menée par la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Selon elle, une sidérante somme d'argent et d'autres biens ont été détournés des caisses et des ressources publiques, plus de 73 millions de dollars depuis 2018, dont près de 39 millions de dollars volés en moins de 2 mois. Ce chiffre ne représente qu'une fraction du pillage global des caisses de l'État sud-soudanais, souligne l'ONU, indiquant que le président Salva Kiir a reconnu qu'en 2012, les élites au pouvoir avaient détourné plus de 4 milliards de dollars. Ce pillage continue à alimenter la compétition politique au sein des élites et il est un moteur clé du conflit en cours, des exactions et crimes compromettant les perspectives de paix durable, écrit la commission dans son rapport présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Djouba a répliqué hier. D'après le ministre de la Présidence, le document fait partie d'une campagne internationale contre le gouvernement. Ce sont des organisations qui sont subventionnées pour ne pas voir la stabilité politique au Soudan du Sud et elles passent d'un sujet à l'autre, des droits humains à la corruption, de la corruption à autre chose, ajoute Martin Ilia Lomouro, avant de dire que son pays est souverain. Si le gouvernement a mal géré quelque chose, seul le peuple peut demander des comptes au gouvernement, pas des forces extérieures, conclut-il.
Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a demandé ce lundi à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU que l'on accorde au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination en dénonçant ce qu'il a appelé l'intransigeance du Maroc pour régler le conflit au Sahara occidental. Le point avec Rosine Mounezero.
Citant les résolutions de l'ONU et la participation de l'Union africaine à un plan de règlement, M. Lamamra a estimé que cette question de décolonisation ne peut trouver de solution qu'à travers l'application du principe d'autodétermination. Le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est inaliénable, non négociable et imprescriptible, a insisté le ministre algérien en assurant que son pays, pays pivot, ne cherchait qu'à œuvrer pour la paix et la coopération dans la région. Le conflit du Sahara occidental oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie depuis le départ du colonisateur espagnol dans les années 1970. Fin août, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en raison d'actions hostiles du royaume, une décision complètement injustifiée et regrettée par Rabat. Le 22 septembre, l'Algérie a enfoncé le clou en décrétant la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les avions marocains. Selon plusieurs diplomates, le Maroc a fini par accepter à la mi-septembre, sous pression américaine, la nomination du diplomate italo-suédois Stéphane de Mistura comme nouvel émissaire de l'ONU. Sa désignation n'est cependant toujours pas intervenue officiellement.
La Minute Éco, John Linden.
Afrexim Bank, la banque africaine d'import-export, a officiellement ouvert vendredi son bureau régional pour l'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun. Selon Financial Afrique, le nouveau bureau couvre la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Dans une déclaration, le président d'Afrexim Bank a laissé entendre que la banque avait pour objectif, avec l'ouverture de ce bureau, de plus que tripler ses interventions en Afrique centrale pour dépasser 5 milliards de dollars d'ici 5 ans. Les institutions qui investissent sur les titres d'emprunt, notamment les bons et obligations du Trésor émis par les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, auront moins d'opportunités à réaliser des revenus sur ce segment d'activité cette année. Selon l'agence Ecofin, qui cite le dernier rapport de politique monétaire de la BCEAO, banque centrale commune à cette sous-région, à fin 2021, il pourrait y avoir au final 6 895,7 milliards de titres publics émis. Cela représente 34,2% de moins qu'en 2020. Ici aux États-Unis, la chef démocrate du Congrès américain a affirmé qu'une nouvelle loi budgétaire serait adoptée à temps avant le 30 septembre pour éviter l'assèchement soudain des finances et des services fédéraux, surnommé « shutdown ». Nancy Pelosi n'a toutefois pas pu éclaircir comment elle comptait trouver un accord avec les républicains. Les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès, mais avec une majorité si étroite au Sénat qu'ils auront besoin de l'opposition pour approuver une loi des finances avant la fin du mois qui marque la fin de l'année budgétaire aux États-Unis.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City ainsi que le duel l'AC Milan et l'Atlético Madrid sont au programme des matchs de la deuxième journée de la Ligue des Champions en Europe qui débute ce soir. Le RB Leipzig reçoit le club Brugge. Dans le groupe B, l'AC Milan, battu en ouverture à Anfield par Liverpool 3-2, tentera de lancer sa compétition contre l'Atlético Madrid. Le Borussia Dortmund, vainqueur du Besiktas à Istanbul, accueille le Sporting Portugal. L'Inter Milan est en déplacement en Ukraine pour y affronter le Shakhtar Donetsk, solide leader de Liga, malgré un nul concédé ce week-end à domicile contre Villarreal 0-0. Le Real Madrid est le grandissime favori contre le Sheriff au Santiago Bernabeu. Basketball. La star du Brooklyn, Kyrie Irving, n'a pas participé physiquement au Media Day d'avant-saison NBA hier dans les installations des Nets. La réglementation de la ville de New York exige de fournir une preuve de vaccination contre le COVID-19. Irving a refusé de dire s'il sera présent pour le premier match de la saison régulière le 24 octobre. Le maire de New York, Bill de Blasio, a émis un décret imposant aux sportifs professionnels de prouver qu'ils ont reçu au moins une dose du vaccin pour pouvoir s'entraîner ou jouer dans les enceintes de leur club. Outre la municipalité de New York, celle de San Francisco exige que les sportifs professionnels présentent une preuve de vaccination pour participer aux rencontres à domicile. Le Canadien Andrew Wiggins, qui évolue aux Golden State Warriors et refuse de se faire vacciner, a demandé une exemption pour motif religieux refusée par la NBA. Tennis, l'ex numéro 1 mondial japonaise Naomi Osaka a expliqué hier qu'elle serait probablement bientôt de retour sur le court. Elle dit ressentir à nouveau l'envie de rejouer au tennis après plusieurs mois compliqués sur le plan mental. « Je sais que je vais rejouer », a expliqué la double vainqueur de l'US Open 2018 et 2020 et de l'Open d'Australie 2019 et 2021 avant d'ajouter que son retour se ferait probablement bientôt sans plus de précision. Osaka a déclaré début septembre qu'elle souhaite faire une pause pendant un certain temps après son élimination au troisième tour de l'US Open, suivie d'une conférence de presse où elle a craqué nerveusement. Auparavant, elle s'est retirée en cours de tournoi à Roland-Garros et a fait l'impasse sur Wimbledon, révélant avoir des problèmes d'anxiété marqués par plusieurs épisodes dépressifs dans un message sur Twitter.
Merci, Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, poursuite de la contestation au sujet des frais associatifs exigée aux parents d'élèves dans les établissements publics. Dans un récent communiqué, la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, a mis un cap en fixant à 25 000 francs CFA le taux des frais d'association des parents d'élèves et enseignants. La société civile parle d'une directive inappropriée. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juluntap.
Au cours d'une réunion à Douala, la capitale économique, le gouvernement a fait connaître sa position sur les frais d'association des parents d'élèves et enseignants.
Les établissements publics sont faits pour les parents pauvres. Vous ne pouvez pas carrément demander 40 000 à un parent, plus les frais exigés.
Boniface Baola, secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires, chargé de l'enseignement normal, a pris part à cette concertation entre les responsables des établissements secondaires publics de la ville de Douala et la ministre des Enseignements secondaires.
Les parents se plaignent et c'est aller un peu au-delà. Et vous, vous dites que vous aviez votre projet sur 3 ans. Non, vous changez. Vous mettez ça sur 5 ans. Et maintenant, vous restez à 25 000. Comme a dit madame, le surplus de chez les personnes qu'on a déjà eu à prendre, on le leur remet. Pourquoi vous voulez vous entêter? Ne faites jamais de l'État ou alors de l'appareil de l'État une affaire propre. Quand un chef me donne une instruction, je me plie. La passion là, ça trahit d'autres choses.
Réagissant au communiqué ayant sanctionné cette concertation, l'ONG Nouveau Droit de l'Homme l'a qualifié, je cite, d'illégal et inopérant. Fin de citation. Cyril Roland Béchon, directrice exécutive de Nouveau Droit de l'Homme.
Ce sont des frais qui relèvent la démission du public dans le financement de l'enseignement au Cameroun. Nous sommes allés sur le terrain de la gouvernance des fonds scolaires, mais on s'est rendu compte que les budgets d'investissement ne construisaient plus les écoles, les salles de classe, ne construisaient plus des toilettes, ne faisaient plus rien dans les lycées et les écoles primaires publiques au Cameroun. Donc finalement, c'était les parents qui, à travers ces APEE, finançaient tout.
Human Rights and Freedoms Movement, une association de défense des droits de l'homme et de liberté, proteste aussi contre la sortie médiatique du ministre des Enseignements secondaires.
La ministre n'étant pas membre des APEE, elle n'a donc pas qualité de fixer les montants des APEE.
Jean-Roger Ndebi, coordonnateur de Human Rights and Freedom Movement.
Dans le cadre du fonctionnement des associations, il revient aux membres uniquement de décider des montants, soit des cotisations, soit des contributions. Alors, ce que la ministre a pris comme décision, c'est une orientation qui entre dans le cadre de l'apaisement de la souffrance des parents.
Selon Jean-Roger Ndebi, coordonnateur de Human Rights and Freedom Movement, des milliers d'élèves ont été refoulés aux portes des établissements scolaires faute d'avoir payé les frais d'association des parents d'élèves dont la gestion serait opaque.
Vous allez constater que c'est monsieur le proviseur et l'intendant qui sont au four et au moulin pour la collecte de ces fonds, alors que le proviseur n'est membre des bureaux de l'APE qu'au titre de conseiller.
Certaines organisations de la société civile plaide pour un texte spécifique sur les APE et une réforme globale au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Direction le Sénégal à présent, où nous allons vous parler du combat de ce père, Magor Dia. L'année dernière, Magor a perdu son bébé décédé dans une crèche après une fausse route alimentaire. Un drame qui avait ému les Sénégalais. Aujourd'hui, ce père se mobilise pour appeler les pouvoirs publics à réglementer les structures d'accueil de la petite enfance et propose même des solutions. Reportage à Dakar d'Alison Lekogo Fernandez.
10 mois après le décès de son fils, Magor Dia retourne sur les lieux du drame, accompagné d'un proche. L'enseigne La Cigogne Bleue a été retirée et la directrice de crèche et une employée sont actuellement en détention. Âgée de 9 mois, Serine Bétio Dia y a perdu la vie en novembre dernier, décédée d'asphyxie après une fausse route alimentaire.
La crèche est responsable du décès de mon garçon. L'enfant s'est étouffé et pendant un très long moment, le personnel était là, incapable de sauver cet enfant-là. Et on se dit que si le personnel était formé, l'enfant aurait été sauvé rapidement.
L'enquête en cours a révélé que la crèche ne disposait d'aucune autorisation. Une situation paradoxale pour Magor Dia, sociologue de formation, qui milite depuis près de 10 ans pour une réglementation des structures d'accueil de la petite enfance. Avec son association, l'ARPE, Association pour une revalorisation de la petite enfance, il propose aujourd'hui des formations au personnel de crèche. Celle-ci, dans le quartier des Mamelles, vient tout juste d'ouvrir et a recruté ses employés dans l'une des rares écoles qui forment au métier de la petite enfance, l'IAB, ouvert en 2017. Penda Dia, directrice de crèche.
Auparavant, il n'y avait aucune école de formation pour la petite enfance. Donc tout le monde peut s'occuper d'un enfant, tout le monde peut ouvrir une crèche. Alors que ça, c'est grave.
Un constat partagé par Shamsa Idara, qui délivre aujourd'hui une formation aux gestes de premier secours. Avec son entreprise, il intervient régulièrement dans différentes structures pour vérifier les normes de sécurité.
Vous le positionnez sur la bouche du nourrisson, comme vous voyez. Pour dire vrai, la majeure partie des crèches, il faut dire la vérité, ne sont pas formées. Les normes sécuritaires ne sont pas respectées. C'est-à-dire que le personnel même, on doute même le personnel même, n'est pas formé pour la petite enfance, pour savoir ce qu'il faut faire.
Face à ce vide, Magordia et les membres de l'ARPE, professionnels de la petite enfance comme simples parents, tentent de créer un nouveau modèle. Écoutons Papa Ndiagassissé, membre de l'ARPE.
Si l'État ne bouge pas, nous on peut aller vers un modèle, c'est-à-dire dire aux gens, voilà les crèches qui nous reçoivent, qui essaient au moins de se mettre aux normes. Comme ça, ça devient plus transparent.
Le 30 novembre prochain sera le premier anniversaire de la mort de bébé Dia. Magordia entend mener une nouvelle action symbolique pour interpeller, une fois de plus, les autorités. Alison Ekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Le lieutenant-colonel Elmarie Maiberg est la seule profileuse de la police sud-africaine. C'est une tâche ardue dans l'un des pays les plus violents du monde, où une personne est tuée toutes les 25 minutes et 115 viols sont signalés chaque jour, selon la police. Blanche Sanou nous donne davantage de détails.
Sur une scène de crime, le lieutenant-colonel Elmarie Maiberg dirige un cours de formation en criminologie pour les policiers sud-africains. Les policiers en formation examineront plusieurs scènes pour tenter de faire le lien entre les crimes et construire le profil d'un suspect. Le lieutenant-colonel Elmarie Maiberg.
Ce que nous espérons établir avec ce cours chez les enquêteurs, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de plus. Quand vous avez un crime sur une scène, une victime allongée, ce n'est pas seulement l'aspect financier qui a été volé. Mais il faut chercher quelque chose de plus et faire un peu plus d'efforts dans l'enquête.
En 25 ans de carrière, Maiberg a enquêté sur 70 meurtres et 90 viols, dont beaucoup par des récidivistes. En Afrique du Sud, la police est confrontée à une réputation d'inefficacité et de corruption. En plus de cela, ce département est sous-financé, subissant des coupes budgétaires fréquentes. Conséquence, l'effectif de la police a considérablement diminué. Malgré ces difficultés, le lieutenant-colonel continue son travail. Dans son bureau se trouvent des tas de dossiers d'interrogatoire, de balistique, de bilan sanguin et d'examens médicaux. Elle étudie minutieusement chaque crime tout en recherchant les indices sur la relation d'un tueur avec la victime. De nouveau, le lieutenant-colonel Elmarie Maiberg.
Parce que sur la scène d'un crime, c'est là que le suspect a laissé des traces. Il montre quelle est sa personnalité. Vous le verrez sur les scènes de crime. Donc tout ce qu'il veut que les gens trouvent, tout ce qu'il fait envers les victimes est montré sur la scène du crime. Et c'est de là que nous déduisons ses traits de personnalité.
Au fil des ans, le lieutenant-colonel a accepté que la frustration fasse partie du travail, en particulier en Afrique du Sud, où la plupart des crimes n'arrivent pas à être résolus faute de preuves. Le système est tellement surchargé que le simple fait d'obtenir des relevés téléphoniques ou des résultats d'ADN peuvent prendre des mois ou des années. Maiberg pense que cela encourage de plus en plus la criminalité et selon les chiffres de la police sud-africaine, dans ce pays de près de 60 millions d'habitants, quelqu'un est tué toutes les 25 minutes et 115 viols sont signalés chaque jour. Le commentaire à nouveau du lieutenant-colonel Elmarie Maiberg.
Les hommes sortiront davantage et commettront des crimes pour montrer leur colère et leur impuissance, alors que les femmes préfèrent se faire du mal à elles-mêmes plutôt qu'aux autres. Nous trouvons donc plus d'hommes que de femmes qui commettent des crimes.
À 50 ans, Maïbour a commencé à former 3 autres flics pour prendre la relève lorsqu'elle prendra sa retraite dans 9 ans. Mais en attendant, elle continue son travail car elle n'a pas l'intention de s'arrêter si tôt.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les législateurs américains sont appelés cette semaine à se prononcer sur un important projet d'infrastructure de 1 000 milliards de dollars. Pour la démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, c'est une période intense qui s'annonce, d'autant que les parlementaires devront également examiner l'autre vaste projet de dépenses sociales de 3 500 milliards de dollars soutenu par les démocrates. Un projet crucial pour l'administration Biden. Le point avec Michel Quinn, récit de Jacques Aristide.
Le vote prévu à la Chambre des représentants est vu comme un test majeur pour le programme du président Joe Biden à l'échelle nationale. Les dirigeants du Congrès tentent de fixer la date à laquelle va être soumis au vote le plan d'infrastructure qui prévoit d'augmenter les dépenses, notamment pour les routes et les ponts. Des élus de l'aile gauche du Parti démocrate affirment qu'ils ne voteront pas pour ce projet de l'ordre de 1 000 milliards de dollars, à moins que le vaste programme de dépenses sociales de 3 500 milliards de dollars, projet baptisé Build Back Better par le président Biden, ne soit également soumis au vote. D'après la présidente de la Chambre, le projet le moins coûteux sera probablement examiné en premier. Quant à l'autre, avec son montant colossal, il pourrait être revu à la baisse au fur et à mesure des négociations, ajoute Nancy Pelosi. Elle était l'invitée de l'émission This Week de la chaîne ABC.
Il ne s'agit pas d'un bras de fer entre modérés et progressistes. De manière écrasante, l'ensemble de nos élus démocrates, à l'exception de quelques-uns dont je respecte le jugement, soutient la vision de Joe Biden et nous parviendrons à faire avancer les choses cette semaine.
Un autre problème se profile toutefois à l'horizon. Le gouvernement pourrait se retrouver en manque d'argent à la mi-octobre, selon un récent rapport. Le Congrès devra alors augmenter la limite de la dette afin qu'il puisse emprunter de l'argent pour payer un large éventail de dépenses déjà approuvées, y compris l'armée et la sécurité sociale. La semaine dernière, le républicain Mitch McConnell, chef de la minorité au Sénat, a déclaré que les élus de son camp n'aideraient pas les démocrates à relever le plafond de la dette. Les démocrates, dit-il, devraient l'adopter eux-mêmes car ils sont sur le point de voter le projet de loi de 3 500 milliards de dollars, un projet que rejettent de nombreux républicains.
Don't play Russian roulette with our economy.
Ne jouez pas à la roulette russe avec notre économie. Assumez vos responsabilités et augmentez le plafond de la dette pour couvrir tout ce dans quoi vous vous êtes engagé tout au long de l'année.
Mais l'enjeu est monumental. Une fermeture partielle du gouvernement pourrait intervenir plus tard cette semaine. Si le Congrès n'adopte pas de loi sur les dépenses, le Sénat devrait ensuite examiner un projet de loi qui a été adopté par la Chambre, lequel étendrait les limites des dépenses, augmenterait la dette et fournirait une aide aux communautés touchés par des catastrophes naturelles, de même qu'aux réfugiés afghans.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg avec vous. En 2020, l'État camerounais a perdu 16 milliards de francs CFA à cause de la corruption et le secteur routier est le plus touché. La Côte d'Ivoire vient de lancer une vaste opération contre ce fléau. Au Sénégal, au Mali, au Niger et en Guinée, le racket des policiers est un mal quotidien. Quelle est la situation dans votre pays? Avez-vous été témoin ou victime de corruption? Comment lutter contre ce fléau? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique ou venez en discuter en direct dans À votre avis à 18h05 temps universel.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sevulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram. pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.